pour préparer les fêtes, vous venez faire un tour à Aix-en-Provence. Noël à Aix-en-Provence, c'est une multitude d'animations, des manèges pour les petits et des traditions qui revivent pour le plaisir des yeux, des sens et la joie de se retrouver en famille ou entre amis. Noël à Aix-en-Provence, ce sont aussi des centaines d'artisans et de commerçants à votre service qui vous proposent mille et une idées pour faire plaisir et se faire plaisir. Alors n'hésitez pas à venir vous plonger dans une ambiance chaleureuse pour ces fêtes de fin d'année. C'est à Aix-en-Provence jusqu'au 3 janvier.
La pâtisserie Plochu, située à proximité de l'église des Réformés, vous présente ses spécialités pour les fêtes de fin d'année. Un grand choix de chocolat, calissons, navettes, glaces artisanales, le tout fabrication maison. Et pour les 13 desserts, les spécialités pompe à l'huile d'olive, gibassier de Provence vous est proposé. Sans oublier les spécialités de Noël, petit four aux amandes, macarons, nougat, tartelette provençale, pâtisserie Plochu, 168 La Canebière, vous accueillera de 8h à 20h. Téléphone 04 91 48 06 67, 04 91 48 66 67.
En France aujourd'hui, qu'on soit chrétien, juif, bouddhiste, musulman, agnostique ou athée, on ne connaît pas la vie de Jésus-Christ, son apport culturel, historique ou spirituel. Et si on partageait ce message universel de paix et d'espoir avec notre entourage ? Agapé France vous invite à partager votre foi en offrant la nouvelle version remasterisée de la vie de Jésus en DVD. Commandez dès maintenant votre DVD ou offrez-le pour 2 euros sur www.agapefrance.org. Dialogue RCF Aix-en-Provence 101.9.
Dans un instant, Terre de Provence, présenté par Micheline Delmont.
Sur les journaux, les médecins, les associations. Alors nous avons eu l'idée de rencontrer Patricia Morales qui justement propose de la méditation. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors donc Béatrice est également là, elle nous parlera de yoga puisqu'il en faut complémentaire. Hein. Et puis Marc qui posera des questions.
Et je méditerai.
Et qui est un adepte du yoga et de la méditation.
Surtout de la méditation et du yoga, exactement.
Alors, donc, on va vous demander, Patricia, la méditation, qu'est-ce que vous proposez comme formation ? Vous êtes à l'écoute des personnes, dites-nous.
Moi, je propose des ateliers de méditation qui sont purement techniques. C'est-à-dire, c'est un travail sur la respiration, pour commencer. On va travailler sur la pleine conscience, le lâcher prise. Et peu à peu, par des exercices et des expériences, le but étant, enfin, le but... En fait, la méditation, il n'y a pas vraiment de but, hein. Mais on va dire que l'intérêt, c'est d'arriver jusqu'à la vacuité. Puisque la méditation, en fait, c'est quand la vacuité s'ouvre. Et jusqu'à la vacuité, c'est plutôt de la pleine conscience.
Alors la vacuité, précisée pour les auditeurs, ils ne savent pas forcément.
La vacuité, c'est au moment où on transcende le mental, quelque part. Il n'y a plus le mental qui est là.
On est dans le ressenti, on arrive à faire le vide, en quelque sorte.
Vous êtes dans un vide, mais c'est une sorte de sas. Ça ne dure pas très longtemps. C'est juste un vide... sur lequel on ne peut pas vraiment parler, c'est vraiment un vide. On ne peut même pas en parler, c'est vraiment un vide. Et derrière ce vide, la méditation s'ouvre.
Alors, il faut préciser que c'est laïque.
Ah oui, bien sûr.
Non, parce que souvent, les personnes ont peur et projettent des idées un peu rétrogrades sur toute forme de méditation, pensant que c'est quelque chose d'un peu new age, d'un peu où on va prendre de la drogue, où on va être... Voilà.
Non, non, justement, au contraire, là, il y a, vous avez le chamanisme où vous prenez des substances hein, animales, végétales, qui peuvent vous aider à...
À partir plus vite.
Voilà, la méditation ne se sert de rien. C'est juste vous qui vous posez, c'est une question d'enracinement. Vous êtes enraciné, le tout est petit à petit, par la pleine conscience, de laisser passer tout ce qui est parasite, c'est-à-dire qu'on ne va pas lutter contre les parasites. C'est souvent le problème des personnes qui commencent la méditation, qui veulent méditer seules. Et là, c'est très difficile parce que bah, c'est humain. Hein. Face à un parasite, automatiquement, on veut lutter. Et plus on lutte, et plus on amplifie le phénomène. Que ce soit un parasite, une pensée vagabonde, une douleur, un bruit, on va amplifier la chose. Plus vous luttez, pire c'est. Donc évidemment,
lâcher prise.
Voilà, il faut apprendre à accueillir. Vous ne pouvez pas lâcher si vous n'avez pas accueilli.
Lorsque l'on est venu vous voir,
c'était au salon Artemidia.
Vous avez parlé donc de la méditation, c'est ce qui nous a donné envie de vous rencontrer. Mais vous avez cité, me semble-t-il, c'était un saint, non ? Ou je me trompe ?
Ah, ça arrive. J'avoue, je ne me souviens plus quel saint. Je vais peut-être parler de Mère Teresa. Voilà. En tout cas, la méditation, elle n'est pas limitée au bouddhisme. Bien sûr que
voilà, c'est ce que vous avez précisé.
De la méditation, puisqu'on va. On va étudier les sutras à travers la méditation, c'est un outil, mais la méditation est ouverte à tout le monde.
Oui, vous avez précisé, c'est pour ça que je voulais que vous le disiez.
Pour,
oui.
Pour aller un petit peu dans votre sens, bon, on parlait de méditation laïque, mais il y a quelqu'un qui est un cistercien qui s'appelle Thomas Merton, qui justement s'est adonné à ce genre de pratique, qui était très branché sur tout ce qui était philosophie orientale et qui s'en servait en fait pour prier encore plus son Dieu, c'est-à-dire mais c'est vrai qu'on peut ou bien méditer, je pense, vers la pleine conscience que vous évoquiez tout à l'heure, mm-hmm. c'est-à-dire peut-être on pourrait expliquer ce que c'est.
La pleine conscience, c'est juste une entrée, c'est une introduction à la méditation. C'est pas la méditation à la pleine conscience. Hein. C'est vraiment ce qui va nous permettre à rentrer en méditation. Voilà, la pleine conscience, c'est j'accueille. J'accueille ce qui est. Si vous êtes en zen, vous allez vous laisser traverser par tout ce qui est parasite. Selon les autres techniques de méditation, les autres écoles de méditation. Hein. Parce qu'on parle de plusieurs méditations, mais en fait, on parle de plusieurs techniques de méditation. La vipassana, elle va utiliser les bandans, d'autres techniques. Le zen va utiliser le fait de se laisser traverser par un parasite. Voilà, il y a plusieurs techniques pour entrer en méditation. Et la méditation, c'est ce qui vient après la vacuité.
Alors, justement, il y a les étapes, vous les avez décrites. La vacuité, donc on fait le vide en soi. Et puis après, il y a la phase où on va rentrer en méditation, comme on passe de l'un à l'autre.
On ne le fait pas, ça se fait.
Ça se fait, d'accord.
Vous êtes dans le « je suis » à ce moment-là. L'idée, c'est de passer du « je veux », c'est-à-dire de votre état mental ordinaire, on va dire, hein, notre état de conscience ordinaire, qui est notre mental, qui nous, le mental qui va nous entraîner quand on est dans cet état de conscience ordinaire, c'est-à-dire qu'on est rarement dans le « ici et maintenant », dans l'état de conscience ordinaire. Le mental nous entraîne ou dans le passé ou dans le futur. On est tout le temps dans des pensées qui vont, qui viennent, et on est rarement dans l'instant présent, ce qui est dommage.
Alors, lorsqu'on fait justement la méditation, quelle attitude faut-il avoir? Le corps, comment se positionne-t-il?
Alors, on peut méditer, il y a plusieurs possibilités, hein, il faut pas se...
Et est-ce que le corps, justement, a une incidence sur la méditation?
Ah oui, absolument.
Est-ce qu'on a besoin de prendre, comme dit Micheline, une position, etc.?
Il y a un minimum à prendre, bien sûr. Il y a un minimum à respecter. Mais enfin, moi, ce que je dis toujours, vous n'êtes pas obligé d'être en zazen ou en lotus. Alors, ce sont des positions qui sont, des postures qui sont difficiles à tenir, parce qu'en fait, vous avez les pieds sur les cuisses.
C'est pas aussi... souple.
Voilà, il faut être souple, donc... C'est pas une obligation. Si on peut le faire, tant mieux, parce que vous serez mieux enraciné. Il y a des raisons. La posture a une raison. C'est-à-dire la posture va nous permettre de nous enraciner. C'est-à-dire que même si vous êtes sur une chaise, vous allez vous poser sur une chaise, mais au bord de la chaise pour ne pas vous adosser. Vous allez avoir les deux pieds bien au sol pour avoir une prise de terre. Les mains aussi vont avoir une posture. Le dos va être droit, mais en souplesse. Les épaules vont être lâchées. La mâchoire inférieure va se relâcher pour qu'il y ait une ouverture au niveau des lèvres. La langue va se caler derrière les incisives. Mais tout ça se fait en douceur. Hein. Il y a pas de...
Oui, je suis en train de le faire en même temps, mais bon, c'est plutôt difficile. Hein.
Après, on va essayer d'être dans cette posture, essayer de ne pas bouger. L'intérêt, c'est quand même de ne pas bouger. Donc, chacun doit trouver sa posture. Mais on peut très bien méditer sur une chaise, c'est pas un souci. Mais voilà, il ne va pas falloir s'adosser, ça c'est clair.
Alors, dites-moi, lorsque vous dites sur une chaise ou autrement, à ce moment-là, vous parlez, vous nous avez parlé, que disiez-vous?
Vous parlez du salon Artemisia, la Micheline. Vous êtes dans le passé, vous n'êtes pas dans la fréquence.
Vous n'avez pas fait
le film. Surtout, j'ai oublié, dites-moi.
Vous nous avez expliqué comment on doit respirer.
Ah, vous voyez ça. Oui, alors, donc la première chose, c'est d'avoir la posture. Mais c'est une posture qui se tient parce qu'on est dans un état de vigilance important. On n'est pas du tout en relaxation. Donc d'abord cette posture pour s'enraciner. Puis ensuite, la première chose qu'on va faire, normalement, on ouvre la méditation. La méditation, elle est reliée au chakra du cœur. Et donc on ouvre la méditation en compassion et gratitude, sachant que la méditation, c'est vraiment la compassion. Et la compassion, c'est l'amour inconditionnel, hein, c'est pas le pauvre, c'est pas ça. Hein. Donc c'est cette compassion, on va pas la créer, elle vient toute seule hein, dans la méditation. Donc ensuite, on va commencer par une respiration ventrale qui, à nouveau, a son rôle de nous enraciner encore une fois. Mais c'est très important de nous enraciner. Et puis, bon, il va y avoir aussi un rôle au niveau physiologique, c'est-à-dire que ça va stimuler le nerf vague qui va sécréter une hormone, qui va réguler le cœur. Et en régulant le cœur, ça va le calmer. Et quand on régule le cœur, automatiquement, on régule tout le métabolisme. De fait, l'esprit va se calmer, puisqu'on est quand même dans la volonté d'apaiser le mental. Donc voilà, premier temps, respiration ventrale. Et ensuite, on va aller sur un objet de méditation qui va nous permettre de faire une diversion sur le mental.
Oui.
Alors, il y en a plusieurs des objets de méditation. Vous avez une respiration avec une visualisation. Vous pouvez visualiser l'air qui va passer par le nez, sur le front, sur le crâne, puis rentrer par la première cervicale, puis passer par la colonne de respiration. Une petite rétention au niveau du coccyx, et puis à l'expire, remonter, colonne vertébrale, première cervicale, remonter à mi-crâne, puis traverser pour sortir par le troisième œil, pour passer justement entre les deux hémisphères. Hein. Ça intéresse quand même de chatouiller un peu cette pinéale. Et puis on continue comme ça, mais à notre rythme, on va pas forcer, on va pas. Ça ne doit pas se faire de la douleur, ça se fait calmement, tranquillement, et chacun a son rythme. Puis au bout d'un moment, quand on est vraiment apaisé, parce que du coup on est tellement concentré sur ce travail que le mental, il n'intervient pas. Et donc au bout d'un petit moment, quand on sent vraiment son mental apaisé, on lâche ça, parce que c'est un objet, c'est pas pour rien qu'on dit objet de méditation, c'est pour ne pas s'y attacher. Donc on va lâcher cet objet quand on se sent vraiment apaisé, et on reste dans notre respiration naturelle. Et bien sûr, à ce moment-là, là les pensées vagabondes peuvent arriver. Tout ce qui est parasite peut arriver, mais bon, on a appris à gérer ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout lutter, mais on va accueillir, du style, quand vous avez une pensée, ben, je te vois, tu peux passer. Après, il y a un peu plus de technique, là, c'est vite dit, hein, mais c'est ça, c'est en fait accueillir, donc pleine conscience de la pensée, ou de la douleur, ou autre, tout ce qui est parasite, hein, donc j'accueille, et puis je laisse passer, donc pleine conscience et lâcher prise.
Patricia, quelles sont les personnes qui ont besoin justement de méditation, qui viennent nous voir pour la méditation?
Qui en a besoin en fait?
Oui.
En fait, je pense que tout le monde en a besoin. Après, évidemment, pas tout le monde ne s'y intéresse. Je pense qu'on s'y intéresse quand on a éprouvé un malaise, on a des questions, on ne trouve pas les réponses. Voilà, on y vient à ce moment-là.
Patricia Morales, combien de temps faut-il pour méditer? Ça dure combien de temps une méditation? Est-ce que c'est chronométrable?
Non. Mais pas pour moi, après, je n'engage que moi-même. Hein. C'est vrai que j'ai entendu souvent qu'il fallait méditer 2 fois 20 minutes par jour. Moi, je trouve ça aberrant, mais complètement aberrant. Je préfère une méditation de 10 minutes, mais de qualité, qu'une méditation de 20 minutes où il y a beaucoup de souffrance, où les gens veulent absolument rester en posture, tant qu'ils vont souffrir, vont avoir plein de tensions musculaires, se battre pendant un certain temps avec tous ces parasites. Et je trouve pas ça très très intéressant, mais ça n'engage que moi. Donc je vais dire, c'est à vous à trouver votre rythme, votre temps. Ce qui est bien par contre, c'est de le faire toujours au même moment.
C'est-à-dire?
Alors voilà, quel est le meilleur moment de la journée?
Le soir? Ça, c'est vous qui allez le décider.
Vous qui vous réveillez très tôt.
Vous avez commencé
à 5h du matin.
Oui. C'est une très bonne méditation, 5h du matin.
J'ai déjà du mal à me lever, alors si je commence à méditer.
Non, je dirais qu'il n'y a pas une heure particulière. C'est à vous à trouver le moment. C'est bien de le faire au moins une fois par jour. C'est mieux 2 fois par jour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait cette régularité dans le temps. C'est au mieux, ça, c'est ce qu'on peut faire au mieux, parce que le cerveau va s'y habituer, tout simplement.
Et les personnes qui, justement, viennent pour la première fois, et puis après viennent quelques fois, qu'est-ce qu'elles vous disent lorsqu'elles viennent? Est-ce qu'elles arrivent à méditer, ou quelles sont les questions qu'on pose?
Alors, au début, les personnes ne pensent pas y arriver, en fait. mais je leur dis que tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Hein, c'est juste. En fait, moi, mes ateliers, c'est quand même une session de 6 ateliers de 4 heures chacun. Oui. Où on fait des exercices, des expériences. On ne va pas méditer pendant 4 heures. Hein, oui. On va travailler sur des expériences, et puis un travail de respiration. Donc voilà, avec tout ça, petit à petit, quand elles arrivent au 6e atelier, elles ont déjà bien évolué. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées à avoir. À un moment donné, on a en méditation le ressenti du cœur, du battement du cœur. On commence à sentir le battement du cœur et puis on sent le corps qui part, qui se balance par rapport au rythme cardiaque. Puis peu après, plus ou moins, ça peut être une autre fois, on va sentir que le corps bouge en cercle, c'est-à-dire c'est la kundalini, donc on va sentir. Et puis bon, en général,
c'est l'énergie qui monte le long de la colonne.
Voilà.
Un peu comme le caducé.
C'est exactement ça, oui. Donc en fait, on va sentir, la première chose qu'on va sentir, c'est très subtil. Donc on rentre dans un monde subtil. Hein. Au fur et à mesure de nos méditations, on ouvre ce monde-là. Et le cœur, ça c'est la partie physique, purement physique, et la kundalini, c'est la partie énergétique. Les deux sont liés, c'est notre vie, c'est les deux. Donc voilà. Et en général, on n'est jamais très loin de la vacuité. Mais après, il ne faut pas la vouloir. Parce que si vous voulez quelque chose, vous ne l'obtiendrez pas.
Mais justement, vous parlez du cœur, le rythme du cœur. Est-ce que par la méditation, on arrive à faire évoluer ce rythme cœur, le baisser ou à le monter? On
Absolument.
Voit beaucoup de gens qui font de la méditation, qui arrivent à jouer sur le cœur, de se concentrer avant de faire un exploit sportif,
oui,
de l'apnée, notamment. Est-ce que c'est ce même travail de méditation qu'ils font? Et est-ce qu'ils arrivent à baisser le rythme cardiaque, par exemple?
Je peux vous donner un exemple. J'étais partie pour l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, pour une cure que j'avais tous les mois. Et j'étais un peu stressée parce qu'il y avait un embouteillage, j'arrivais en retard. Et puis, comme on était plusieurs sur cette cure, je savais qu'il fallait arriver tout le monde en même temps. Donc, ça m'embêtait de gêner le processus. Donc, tout le monde m'attendait. Je savais que tout le monde m'attendait. Enfin, pas moi en particulier, mais il fallait que tout le monde soit là. Donc, ça me perturbait par rapport à ça. Et quand je suis arrivée, mais sans plus, quoi, je veux dire, j'étais pas particulièrement énervée. Et quand je suis arrivée, je me suis excusée platement. Et puis on a commencé à prendre mes constantes, donc entre autres la tension. Et là, j'étais à 15 ou 16, enfin, j'étais quand même une tension un peu élevée.
Un peu stressée.
Voilà, et je lui dis, mais c'est marrant parce que moi, je me sens pas stressée. Et l'infirmière m'a dit, c'est insidieux là, le stress, des fois on le sent pas, mais le stress il est là, en attendant, ta tension est un peu élevée, donc on va attendre. Donc moi, encore plus embêtée, je m'en suis attendue encore plus.
Donc on a cassé. Vous êtes montée à 17.
Non. Pendant qu'elle s'est tournée pour noter les constantes, j'avais l'appareil qui était juste à côté de moi, je regardais l'appareil et puis en une seconde je me suis baissée, alors un peu trop, du coup je suis baissée à 10. Et le temps qu'elle se retourne, elle me dit qu'est-ce que tu as fait, elle me connaissait, hein, c'est avec que je faisais la méditation, elle me dit qu'est-ce que tu fais, j'ai dit tu m'as dit que c'était trop élevé, j'ai baissé. Donc du coup elle m'a essayé de monter, donc c'est pas grave, ça monter c'est pas difficile. Donc voilà, après je pense que quand on a ouvert la méditation, elle est là, elle est ouverte. Et on a accès n'importe quand, on n'a pas besoin de se concentrer, voilà, ça se fait tout de suite.
Vous proposez, Patricia, donc 6 rencontres de, entre guillemets, de formation avant de...
Oui, j'appelle ça des ateliers parce que c'est un
échange.
Oui,
atelier.
Hein, voilà.
Oui.
Pour moi, c'est un échange.
Et vous avez quand même des élèves qui viennent recevoir
un peu votre enseignement. Bien sûr, mais tous élèves. En méditation, on est toujours débutant. Donc moi, j'apprends par mes élèves aussi. Voilà, c'est cet échange qui est intéressant. On apprend toujours. Méditation, c'est vraiment ça. Toujours.
Alors, vous dites six rencontres. Hein. Donc la première, c'est pour quoi?
Alors les deux premiers ateliers, c'est vraiment tablé sur la pleine conscience.
D'accord.
C'est 8 heures sur la pleine conscience quand même. Mais c'est l'intérêt, c'est quand même de décortiquer. De voir qu'il y a un mental. C'est important, on ne voit pas toujours qu'il y a un mental.
Et peut-être ce qu'il faudrait souligner, c'est que maintenant, c'est pris vraiment en considération, ça vient des États-Unis évidemment, puisque dans les hôpitaux, on fait travailler certains patients sur la pleine conscience.
Tout à fait.
Alors après, les deux premiers.
Après, les deux ateliers qui suivent, c'est lâcher prise et libre arbitre. Mmh. Et les deux qui suivent, c'est la vacuité.
D'accord. Bon, ben, donc, pour méditer. Bien, si je puis dire, il vaut mieux passer par ces
six stades, en fait.
Oui, c'est plus difficile, certainement, de
tout
l'accéder
seul.
Tout
mais
seul.
Oui, c'est une aide, mais on peut aussi, hein, je veux pas dire que c'est obligatoire
oui,
de passer, voilà, les personnes qui vont pouvoir. Moi, tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est déjà d'arrêter de lutter contre les parasites.
Et pour vous aider à méditer, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est souhaitable d'avoir, par exemple, de la musique? Est-ce que la musique vous aide à méditer?
Non. Non, parce que c'est comme ce qu'on appelle la méditation guidée. Si on vous guide ou si vous écoutez de la musique, c'est le mental.
Ah, d'accord.
Quand vous êtes dans le mental, c'est pas la méditation.
Alors c'est là qu'on se rejoint pas forcément avec le yoga, puisque c'est vrai que les séances de yoga peuvent se terminer par une méditation exactement comme celle que vous décrivez. Mais en revanche, comme les élèves sont parfois un peu démunis devant quelque chose qu'ils ne connaissent pas formidablement bien, méditer dans un univers, un monde où on est toujours en train de courir, d'être battant, d'être beau, d'être en forme, c'est pas évident. Donc c'est vrai que parfois, dans le yoga, on peut faire des méditations guidées, mais simplement en suggérant des visualisations ou des paysages ou quelques mots comme, je sais pas, le mot harmonie, ou voilà, des choses qui sont apaisantes et qui conduisent à une bienveillance envers soi-même parce que, et envers les autres, parce que souvent le souci c'est que les personnes ne s'aiment pas assez elles-mêmes.
Tout à fait,
alors on va faire Béatrice une pause musicale et on revient sur le yoga.
Oui, et on méditera sur le yoga.
Tête de Scotto et ses natures.
Dialogue RCF 89.6 à Marseille, 101.9 un peu partout dans les Bouches-du-Rhône, Terre de Provence, Micheline Delmont.
Alors, je ne suis pas toute seule, nous avons eu le plaisir d'écouter Patricia Morales qui nous parlait de méditation, Marc qui posait des questions, et Béatrice, vous allez nous parler du yoga, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de méditation et de yoga, alors on aimerait bien que vous nous donniez quelques précisions.
Mais d'abord, est-ce que le yoga est une forme de méditation et quelle est la différence essentielle qu'il y a entre yoga et méditation?
S'il y en a fait, c'est très complémentaire, même si souvent les enseignants de l'un et de l'autre ne font pas le lien. D'ailleurs, yoga, ça veut dire lien. Donc, c'est le lien aussi bien entre la terre, le ciel, l'homme, Dieu éventuellement, le mental et le physique. Et c'est vrai que c'est assez complémentaire parce que en fait, ce qui est intéressant en commençant par le yoga, c'est qu'on va prendre des postures, notamment en hatha yoga, et ces postures vont permettre de débloquer un peu toutes les tensions qu'on a dans notre corps, ce qui va libérer le mental et le préparer à rejoindre la méditation et cet esprit, cette direction vers la vacuité.
Je crois que dans le yoga, il n'y a pas l'esprit de compétition.
Non, absolument pas, ni envers soi-même, ni envers les autres, comme dans la méditation d'ailleurs. Alors, il y a des formes de yoga qui sont arrivées récemment, où on fait du yoga à 40 degrés, dans des compétitions pas possibles. Personnellement, j'ai essayé pour voir quand même ce que c'était. Et c'est de la fitness en fait, c'est du fitness, mais sans l'esprit du yoga justement, qui est finalement un art de vivre, un style de vie, le yoga. C'est voilà, c'est appréhender la vie différemment.
C'est un style de vie donc plutôt hérité de l'Asie, qui vient de l'Asie.
D'Orient.
D'Orient plutôt que d'Asie alors.
L'Inde.
Plutôt l'Inde, voilà. C'est un art très indien. Est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, le yoga, qui est un lien lui-même, avec la transcendance et on va dire avec l'esprit de réincarnation qu'il y a chez les Indiens? Est-ce qu'on retrouve ça aussi?
Certaines personnes peuvent effectivement. Quand on est bouddhiste, on croit à la réincarnation. En revanche, lorsqu'on est athée ou chrétien, on n'est pas du tout obligé de mettre une connotation religieuse dans une pratique physique. Mais vous pouvez très bien créer une secte avec le foot. D'ailleurs, je me demande si c'est pas le cas. C'est une secte qui rapporte beaucoup d'argent. Donc voilà, ce n'est pas forcément en lien avec une forme de spiritualité. Mais ça peut ouvrir, comme je disais tout à l'heure à propos du cistercien Thomas Merton, c'est vrai que beaucoup de moines chrétiens pratiquent aussi bien la méditation que le yoga.
Alors, on a vu qu'avec la méditation, il fallait 6 séances en gros pour à peu près arriver à méditer. Le yoga, il faut combien?
Toute une vie. On apprend tout le temps.
Trop tard pour moi, alors.
Mais non, vous pouvez commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Il ne faut pas vouloir être souple d'entrée de jeu. Quand le corps s'assouplit, bah, forcément l'esprit va s'assouplir aussi. Donc, du coup, on va moins se demander à soi-même. Et du coup, comme on ne va rien se demander, on va y arriver.
Alors, comme, là, les positions fétiches, on va dire, les positions idéales pour le yoga, c'est quoi? C'est la même comme que pour la méditation,
alors,
le zen?
C'est vrai que pour lorsque l'on pratique le pranayama, c'est-à-dire les respirations, c'est intéressant, effectivement, de se mettre en lotus. Mais si on n'y arrive pas, on peut très bien se mettre en position assise, les jambes écartées, peu importe. Hein, il faut être confortable et travailler son souffle, puisque en fait tout est fondé sur le souffle. Voilà. Et on inspire et on expire avec le nez, pas avec la bouche.
Alors Patrice Morales, vous êtes enseignant de méditation. Est-ce que vous connaissez le yoga? Est-ce que un jour vous avez fait un peu de yoga aussi vous-même?
J'en fais. J'en fais régulièrement, oui.
D'accord. Et vous y trouvez aussi la facilité de méditer aussi facilement qu'une méditation traditionnelle?
Moi, je dirais que ça se complète parfaitement. D'ailleurs, quand les participants de mes ateliers se retrouvent un petit peu tout seuls, ils sont déçus que ça finisse, je leur propose de continuer sur du yoga et puis d'être curieux, de partir sur du zen, du vipassana, d'être curieux. Mais le yoga, c'est un travail de respiration, puis c'est un travail avec le corps qui vous réconcilie énormément avec vous-même.
Et justement, Béatrice, lorsque les élèves viennent pour la première fois, est-ce qu'elles sont surprises des attitudes qu'elles doivent prendre?
Alors, il y a aussi des hommes, hein, c'est ça qui est sympa dans le yoga. C'est vrai que c'est quelque chose qui, au départ, a été créé par des hommes pour des hommes, mais qui est souvent enseigné par des hommes, mais qui recueille souvent un public féminin. Peut-être parce que les hommes ont peur de ne pas être assez souples et aussi...
Parce qu'on fatigue beaucoup les femmes, alors bon.
Oui, vous débarrassez un peu des hommes de temps en temps. Votre question, c'était...
Mais la personne qui vient pour la première fois, qu'est-ce qui va la surprendre dans les attitudes de yoga?
Je pense que... les personnes viennent avec un regard neuf, donc tout peut les surprendre, mais en même temps, comme elles font ce qu'elles peuvent à leur rythme, et que personne ne va les juger, et qu'il n'y a vraiment pas de cet esprit-là, donc il y a une espèce de détente qui s'instaure dès le départ.
Et je crois aussi que vous axez sur le Om.
Ah, les mantras.
Les mantras. Alors, les mantras, expliquez-nous les mantras.
Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve même dans la tradition orthodoxe, hein, avec, je ne sais plus la phrase exacte, mais « Priez pour moi, Seigneur Jésus, qui suis pécheur », enfin. Donc, en fait, c'est prier ou inspirer ou dire des sons qui vont ouvrir les chakras en continu, voilà, tout le long du... Moi, je pense souvent à la colonne vertébrale et aux chakras qui sont collés dessus. Mais après, chacun fait à sa manière. Donc, ce sont des sons qui n'ont pas une connotation religieuse au départ. On peut choisir de dire ce que l'on veut.
Bon, où est-ce qu'on peut faire du yoga, alors?
Ah ben, y a plein d'endroits, parce que comme c'est très à la mode, mais par exemple, dans le 8e, ça peut être Place Bonnefond, à la Maison des Sports.
Très bien. Et là, vous, Patricia, c'était au Bagne, hein?
C'est au centre Namasté, oui, au Bagne.
Bon, ben, je vous remercie tous les trois. Merci à Fabrice Berg qui a guidé nos voix. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Présenté par Micheline Delmont.
Dialogue RCF étant de Berre 101.9.